seule civilisation qui existait dans les Espagnes, c'était l'Andalousie, qui était la terre promise. En plus, ils ne rêvaient que de ça. Hein. C'était vraiment comme un mirage. Hein. C'était la civilisation, c'était l'Andalousie.
Est-ce que ces traces profondes de l'identité arabe perdurent aujourd'hui chez les Andalous ?
Oh oui, mais elles ont perduré presque tout le temps, si vous voulez. Lorca commence en 1935, dont un an avant sa mort, un célèbre discours, si vous voulez, qu'il fait d'ailleurs à Grenade en disant « Je suis natif de Grenade, donc je suis juif, je suis gitan et je suis musulman. »
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. De quelle étoffe sont faits les rêves ? Celui d'Al-Andalus est tissé de souvenirs glorieux, teintés de mélancolie. Celle qui porte le deuil d'une société multiculturelle où le savoir et la poésie faisaient bon ménage avec l'Empire islamique. Mais cette terre promise dont parlait l'écrivain Michel del Castillo n'est-elle pas, vous l'avez aussi entendu, un mirage ? Le mirage d'une société tolérante où l'on pouvait être en même temps et indifféremment, comme Federico Garcia Lorca s'était rêvé à Grenade, juif, musulman et gitan. C'est souvent comme cela avec le Moyen-Âge. On y puise, comme dans un magasin de curiosités, ce qui nous convient à un moment donné. Alors, on charge la barque, ou plutôt ici, vous allez l'entendre, la mule. On la charge de tous les vestiges que l'on veut sauver du passé. Nous allons parler aujourd'hui de livres, d'aventures, de transmissions, mais aussi de pouvoir, de violence et de religion dans l'Andalousie médiévale. Nous allons en parler avec le scénariste d'une bande dessinée à la fois savante et enjouée, la Bibliomule de Cordoue, Wilfried Lupano, qui sera rejoint dans la seconde partie de l'émission par notre éminente sociétaire du jour, Emmanuelle Tixier-Duménil, et c'est bien son jour en effet, puisqu'elle publie un livre qui prolonge et éclaire celui de notre invité, Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle. L'un comme l'autre se pose au fond la même question. Comment avec Al-Andalus, mais d'une manière générale avec le Moyen-Âge, faire musée de nos contradictions. Cela tombe bien, le nouveau musée de Cluny ouvre aujourd'hui et de cela aussi on parle dans Histoire 2. Wilfried Lupano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste de bande dessinée et on vous doit de très nombreux albums. Les plus jeunes sont fans de la série Le Loup en slip, mais c'est en somme la version enfantine des Vieux Fourneaux. Une BD culte, également dessinée par Paul Coway, qui met en scène des pieds nickelés d'aujourd'hui dont la devise est « Il n'y a pas d'âge pour faire chier le monde ». Alors c'est un beau programme, je suis pas sûr que ça soit le vôtre, mais vous pouvez penser comme eux que l'on fait de bonnes soupes dans les vieilles marmites et notamment... Alors que vous êtes philosophe de formation, les marmites de l'histoire.
Oui, totalement. C'est ma ressource principale, histoire ancienne, histoire plus contemporaine. Mais c'est vrai que je pioche énormément dans tout ça pour mon travail. C'est ma source d'inspiration favorite, oui.
On pourrait aussi parler de votre série Les aventures de Sarkozyx. Mais en tout cas, vous avez un rapport... engagé à l'histoire, votre précédent album, Blanc autour, dessiné par Stéphane Fer, qui est publié chez Dargo l'année dernière, plante son récit dans une petite ville du Connecticut où l'on trouve le musée Prudence Crandall, du nom de cette institutrice qui ouvrit une école pour les jeunes afro-américaines en 1833. Seulement, avec l'Andalousie du Xe siècle, il n'y a pas de musée, il y a juste le souvenir d'une bibliothèque.
Oui, et c'est ce qui m'a véritablement surpris quand je l'ai découvert au détour d'un travail de recherche que je faisais sur la destruction des savoirs, la destruction volontaire ou involontaire des savoirs. Je lisais comme ça un petit article sur la destruction des bibliothèques, etc. Et je suis tombé sur cette bibliothèque de Cordoue qu'on avait livrée aux flammes. Et ce qui m'a marqué, c'est que je n'en avais jamais entendu parler, alors que je me considérais comme ayant un niveau à peu près normal en histoire. Voilà.
Et cette histoire longue, cette histoire longue de l'autodafé jusqu'au nazisme, évidemment, mais aussi jusqu'à Daesh, elle termine, au fond, ce qui est une fable humaniste également sur la transmission des savoirs.
Oui, c'est ce qui m'a amené à ce récit, et c'est par là que j'ai voulu le terminer également. Ce trajet qu'on fait avec la mule sur ces sujets... du savoir, de la transmission, des rapports qu'il peut y avoir justement entre le pouvoir et le savoir. On a eu envie avec Léonard Cheminot, le dessinateur, d'ouvrir notre récit final sur toutes ces autres occurrences, d'abord pour ne pas stigmatiser cet endroit-là, ce point chaud-là du globe, mm-hmm. et aussi pour montrer toutes les applications à travers le temps, tous les recours chroniques à cette technique de barbarie, qu'on pourrait qualifier de barbarie.
Et donc, comme pour Blanc Autour, il s'agit de donner à voir une histoire oubliée, mais évidemment, si on le dit ainsi, on peut craindre, Wilfried Lupano, le didactisme. Or, le road movie de cette mule exténuée qui peine sous le poids des livres, escortée donc par des personnages extraordinaires. Il y a Tarid, le bibliothécaire eunuque, il y a la belle esclave noire Lubna, et puis il y a un va-nu-pied andalou du nom de Marwan. Il faut dire à nos auditeurs que c'est d'abord très drôle, c'est un long périple. Alors que fuient-ils ces personnages ?
Il fuit le nouveau pouvoir de Cordoue qui est incarné par le vizir Al-Mansour, qui vient de prendre le pouvoir parce que le calife Al-Hakam II est mort, laissant un jeune héritier, Hicham, qui n'a que 11 ans. Et Al-Mansour, pour asseoir son pouvoir, vu qu'il n'a aucune légitimité de sang, eh bien, va chercher du côté des radicaux religieux de ce temps, qui sont un peu agacés depuis 60 ans de voir que règne à Cordoue cette culture enracinée dans la Perse, la Grèce, la civilisation syriaque, et qui veulent revenir à quelque chose de beaucoup plus centré sur le Coran et sur la prophétie révélée. Et donc, ils vont demander à Al-Mansour, en échange de leur soutien politique, d'expurger cette grande bibliothèque de Cordoue de tous ces livres scientifiques, poétiques, mais surtout très cosmopolites et ancrés dans les civilisations antérieures qu'ils veulent voir disparaître. Tarid, qui est le bibliothécaire en chef de la grande bibliothèque, j'ai imaginé, parce que évidemment on n'a pas beaucoup d'informations sur cet individu, on sait qu'il a existé mais on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, j'ai imaginé que quelques jours avant cet événement fâcheux, il en avait forcément entendu parler et que son cœur n'avait pas pu se résoudre à regarder brûler tous ses livres. Alors la veille de cette infamie, il met à peu près tout ce qu'il peut trouver de savoir universel choisi comme ça un petit peu à la hâte sur une mule qui passait par là. Il en choisit évidemment beaucoup trop parce qu'il ne sait pas s'arrêter et il décide de partir, de quitter Cordoue pour aller protéger ces livres-là, les mettre à l'abri quelque part où il ne sait pas tellement. Il se dit que l'inspiration va lui venir en faisant.
Et nous nous situons donc, vous l'avez compris, en entendant l'histoire entre la grande vadrouille et le nom de la rose. Mais je pense que cette dernière référence, le nom de la rose, est importante parce que la fiction, au fond, quand elle prend le Moyen-Âge pour cadre, un Moyen-Âge dont pourtant on pourrait dire qu'il se caractérise par le livre rare, donne souvent le premier rôle au codex, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, en tout cas, fait du livre le principal protagoniste de l'action. Un livre qui va sauver le monde, qui va le relancer, ou pour ses ennemis, qui va le menacer. Au fond, avez-vous le sentiment, Wilfried Lupano, que au fond, vous écrivez, c'est un gros livre hein, quand même, ça fait 250 pages, c'est une histoire à la fois très drôle, très enlevée, mais très vaste et grave, une sorte de rêve de lettré, c'est-à-dire que vous donnez au livre, à sa matérialité, un rôle très important.
Oui, en tout cas, c'est ce que Tarid croit très fort. Mmh. On découvre un peu plus tard dans l'histoire que ça n'est pas si simple, mais en tout cas, lui, il croit très fort en la capacité des livres à changer le monde, probablement, et donc en leur extraordinaire pouvoir. Oui. Et c'est pour ça que pour lui, il est inconcevable de les regarder brûler. Alors peut-être que je me retrouve dans cette idée, vous avez totalement raison, et que je me plais moi aussi à penser que les livres ont ce pouvoir-là, on pourrait en discuter des heures.
Hein. On pourrait discuter des heures aussi de leur matérialité, parce que c'est très présent dans le récit, ça inspire de nombreux gags, mais aussi des passages où l'on apprend plein de choses, comme par exemple la recette de l'encre qu'on extrait de la gale du chêne. Vous pouvez nous raconter ?
il s'avère qu'au cours de l'histoire, eh ben on a passé à peu près autant de temps à travailler sur les supports, donc le parchemin, le velin, puis le papier, etc., que sur l'encre avec laquelle on écrivait et qu'il fallait faire la plus durable possible. Donc il y a eu, au travers de l'histoire, des centaines et probablement des milliers de recettes d'encre. Et il s'avère que celle qui est le plus stable à cette époque-là et qui a duré le plus longtemps, c'est celle qui est obtenue avec la torréfaction, entre guillemets, de la gale de chêne, donc cette espèce de bourgeon qui apparaît sur le chêne quand une petite mouche vient pondre ses œufs dessus. C'est une espèce de réaction épidermique du chêne, qui forme ces espèces de boules là avec lesquelles on a tous joué quand on est enfant et qui permet de faire une encre qui dure. Et on se dit qu'effectivement on mesure assez peu ce qu'on doit à tous ces passionnés de la transmission qui se sont penchés sur ce type de problématique à diverses périodes de l'histoire. Qu'est-ce qui fait finalement une transmission durable? C'est évidemment protéger les livres dans des bibliothèques, dans des endroits sécurisés, à l'abri des pillages, à l'abri des inondations, des incendies, etc. Mais c'est aussi la qualité des supports, de l'encre, et ça nous fait prendre conscience de l'extrême fragilité de cette transmission du savoir et du miracle de cette transmission, à la fois d'une zone territoriale à une autre, mais à la fois dans le temps. Et oui, c'est pour ça que j'ai choisi comme véhicule cette mule, parce que la mule me paraissait extrêmement symbolique de tout ça. C'est un animal lent, capricieux et à la fois robuste, qui atteint son objectif à la fin. C'était ça qu'elle représentait pour moi, cette mule, c'était ce côté fastidieux de la transmission.
C'est ça. Alors on va la découvrir aussi très friande de certains livres, et en particulier le traité sur les mathématiques d'Al-Khwarizmi, qui a donné le nom latin d'algorithme, et celui d'Al-Jaiz aussi sur les animaux. Le premier est un savant de Bagdad, le second de Bassora. Tous les deux transmettent, justement, vous l'avez dit, c'est le mot-clé, au 9e siècle, un savoir grec qui va ensuite migrer vers Saragosse et Tolède. Ça, c'est l'histoire qu'on apprend à l'école, et d'une certaine manière, la force et la beauté de votre livre, c'est de la rendre accessible, drôle et aventureuse.
Oui, c'est d'abord aussi ça, la force de la bande dessinée. Moi, je crois beaucoup à cette vertu-là de la bande dessinée, c'est-à-dire de donner de la chair, d'incarner, par exemple, des événements historiques, mais ça peut aussi être des propositions en science-fiction ou dans des univers parallèles, etc. On fait véritablement entrer les lecteurs de plein pied dans des époques, dans des problématiques, avec des personnages. Et ça, c'est la force de ce média. Je crois pas trop en... Ouais, je crois pas trop dans une bande dessinée historique, un peu à l'ancienne, justement très, très pédagogique, etc., avec une succession d'événements. Et je pense qu'il faut par la fiction. Non, voilà, j'ai eu envie d'aller...
C'est ça, et c'est une bande dessinée qui joue avec tous les codes de la bande dessinée. Évidemment, comme c'est l'histoire d'un vizir qui veut devenir calife à la place du calife, on pense inévitablement à Isnogoud de Goscinny et Tabari. Et il y a des références visuelles. C'est l'occasion d'ailleurs de parler du travail formidable sur la culture visuelle par votre dessinateur Ludovic Cheminot, auquel on doit ajouter le nom du coloriste aussi, Christophe Bouchard. Comment vous avez fait? Parce que c'est quand même un exploit. On ne peut pas dire non plus qu'il y a énormément de références visuelles sur l'Andalousie du Xe siècle.
Non, c'est un challenge, effectivement. Léonard était dans cette situation où, effectivement, quand il a reçu mon scénario, c'est la première réflexion qui lui est venue, c'est que ça n'avait pas suscité chez lui énormément d'images visuelles parce qu'il n'y a pas de référence immédiate. C'est une époque peu traitée par le cinéma, par la bande dessinée, etc. Et donc, en fait, les références, il fallait aller les chercher ailleurs, sans être certain de ce qu'on faisait, puisque c'est trop vieux pour qu'il reste des images. Donc on a beaucoup reconstruit, beaucoup réinterprété. On s'est autorisé à aller chercher dans l'imagerie plus orientale, parce qu'on s'est rendu compte que dans les textes d'historiens figurait le fait que à Cordoue, à l'époque, on avait à cœur de ne pas être, entre guillemets, les ploucs de l'islam, hein, c'est-à-dire de ne pas être déconnecté de ce qui se faisait à Bagdad, parce que c'était un califat neuf qui ne voulait pas être en reste. Et donc, ils avaient à cœur de demander tout le temps aux voyageurs qui venaient de traverser la Méditerranée, qui arrivaient d'Orient et qui débarquaient à Cordoue, ce qui se faisait en ce moment à Bagdad, de raconter l'architecture, les vêtements, la musique, qu'est-ce qu'on mangeait à la table du calife, qu'est-ce qui se passait, et d'essayer d'être à la mode, en fait. Donc, on s'est dit que c'était pas idiot de s'inspirer de cet islam plus de Bagdad qu'on connaît un peu mieux, enfin qui a des représentations graphiques qu'on connaît un peu mieux, parce que probablement qu'il devait quand même être un petit peu sujet de ça à Cordoue également.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Emmanuel Tixier-Duménil, bonjour.
Bonjour.
Sauf votre respect, vous pourriez vous exclamer vous-même en tant qu'historienne, la bibliomule c'est moi.
À la bibliomule, c'est moi, lente et fastidieuse.
Non, je ne dis pas
robuste,
ça, mais...
Robuste, robuste, il a dit, lente et robuste.
Tenant des livres, quand même, sur son dos.
Voilà, elle resquille un peu, elle ploie sous la charge des livres, et en même temps, elle les sauve de l'oubli. Elle nous fait effectivement penser un petit peu à nous, les historiennes, mais aussi les historiens, cher Patrick. On est écrasés par la charge, mais nous sommes aussi des porteurs de livres, et je pense que c'est une belle mission.
Eh ben, on va la poursuivre, cette mission, après une pause musicale. De Wilfried Lupano, scénariste de La Bibliomule de Cordoue, paru chez Dargaud en 2021, Bibliomule dont nous suivons le pas. En compagnie d'Emmanuel Tixier-Duménil, historienne spécialiste de l'Andalousie médiévale, on peut dire que ça tombe vraiment bien, qui sera bientôt rejointe par Isabelle Bardiès-Fronti, conservatrice générale au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge. Car nous parlons de cela finalement. Que retenir du Moyen-Âge? Que sauver du passé? Quels vestiges nous reste-t-il de ces aventures, de savoir, de pouvoir, de foi, qui sont aussi, pourquoi les idéaliser, des histoires cruelles et violentes? Parce que tout cela, Emmanuel, se joue sur des ruines d'empire.
Oui, ce sont sur des ruines d'empires et qui sont ces empires extrêmement puissants au Xe siècle. J'en profite pour remercier l'auteur de cette magnifique bibliomule qui est une magnifique BD, effectivement, qui est un ouvrage absolument essentiel, ce qui permet de rendre lisible et de comprendre un petit peu ce que c'est que Al-Andalus au Xe siècle, au fait de sa puissance. Et il faut dire qu'à ce moment-là, le califat de Cordoue est un des trois grands califats du monde islamique. Il y a eu un califat unique jusqu'en 909 et il y a désormais trois califats rivaux au Xe siècle, celui de Bagdad, celui du Caire, entre les mains des Fatimides, qui a d'abord été proclamé à Kairouan, mais ensuite au Caire, et celui de Cordoue. Mmh. Et vous restituez, Wilfried Lupano, ces personnages tout à fait essentiels que sont Abdelrahman III et Al-Hakam II, son fils, qui sont des modèles de pouvoir, qui sont des modèles de calife. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une intervention de Maribel Fierro, notre collègue espagnole, qui disait que peut-être que ces califes andalous ne portaient pas de turban. Donc c'est vrai qu'il est difficile de restituer dans un objet aussi visuel qu'une bande dessinée ce qu'est le pouvoir, mais vous les faites très grands. On voit immédiatement leur pouvoir dans cette bande dessinée.
Oui, oui, on s'est beaucoup interrogé sur cette représentation. En particulier, Abdelrahman III, on a trouvé dans les sources qu'il était blond aux yeux bleus parce que sa mère était une esclave vasconne et qu'il avait tendance à se teindre les cheveux au henné et à se mettre du kohl pour s'arabiser au maximum parce qu'en tant que commandeur des croyants, avoir l'air d'un Bee Gees, ça devait lui donner une drôle d'allure. Ouais. Donc en fait, on savait jamais vraiment où situer comme ça la... C'est la limite entre l'imaginaire collectif, en fait, l'image que les gens peuvent avoir d'un calife et la réalité historique. On a un petit peu besoin d'aller chercher dans les clichés aussi pour que les gens, au premier coup d'œil, ils puissent identifier un personnage. C'est toute la difficulté en bande dessinée ou au cinéma d'ailleurs, enfin, dès qu'on passe par l'image, quoi.
L'un des personnages les plus attachants d'ailleurs de votre bibliomule, c'est un eunuque dont on apprend qu'il est un esclave venu du Nord. Et en ce point, l'intrigue se croise avec celle des Vikings, c'est d'ailleurs assez intéressant. Or, Emmanuel Tixier-Duménil, l'eunuque, c'est vraiment le symbole de l'Empire.
Ah oui, c'est le marqueur de l'Empire. Il y a des eunuques dans l'Empire chinois, il y a des eunuques dans l'Empire byzantin, il y a des eunuques dans l'Empire islamique, dans toutes les parties de l'Empire islamique, hein, depuis l'Indus jusqu'aux Pyrénées. C'est un produit de luxe, assez étonnamment inutile, et qui néanmoins remplit des fonctions extrêmement importantes. Et c'est le cas de Tarid le bibliothécaire. On a parfois aussi des commandants d'armée. Et c'est intéressant de voir comment des séries comme Game of Thrones, par exemple, a restitué ça, c'est-à-dire... Oui. Et l'eunuque n'est pas simplement un gros poussat comme Tarid, ça peut être aussi un guerrier. Et ce personnage est tout à fait effectivement emblématique de l'Empire. Il n'y en a pas dans l'Occident latin,
non.
Qui d'ailleurs n'est pas un empire au Moyen-Âge.
Et ce qui est également impérial dans cette histoire, c'est la conception des identités, qui est toujours plus politique qu'ethnique. On retrouve d'ailleurs la rêverie de Michel del Castillo évoquée au début de cette émission, parce que Marwan, qui est un peu gitan, qui dit à un moment donné qu'il est juif, mais pour sauver sa peau, d'une certaine manière, c'est l'Andalou par excellence, non ?
C'est l'Andalou par excellence, presque un Andalou du 19e, décrit par Georges Sand, hein, c'est assez étonnant. Oui, on se rend compte, et je trouve que la BD le restitue merveilleusement, que on ne peut pas faire de l'histoire ethnique, et notamment à l'échelle d'Al-Andalus. On a toujours cette idée de l'altérité absolue qu'est l'islam, et comme si l'arrivée des Arabes en 711 dans la péninsule ibérique, qui est alors gouvernée par les Visigoths, entraînait un remplacement total de la population. Et puis, ensuite, en 1492, quand les rois catholiques reprennent la totalité d'Al-Andalus et font tomber Grenade, c'est comme s'il y avait à nouveau, j'allais dire, un grand remplacement, oui. Sans mauvais jeu de mots. Mais ce sont les mêmes populations, hein, qui, au gré des contextes, se convertissent à l'islam. D'ailleurs, on a très très peu d'éléments tout à fait assurés sur le calendrier de ces conversions. Tout ce qu'on sait, c'est que ces conquêtes ne s'accompagnent pas de conversions forcées, mais qu'aux alentours du Xe siècle, il y avait certainement une majorité de musulmans en Al-Andalus.
Emmanuel Tixier-Duménil, vous venez de publier « Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle » aux éditions du Seuil. Alors là, il y a un cas de conscience, hein, parce que vous êtes sociétaire ici, donc normalement vous parlez des livres des autres. Celui-là est publié dans la collection que je dirige, l'Univers historique. Donc que faire ? On est embêté. Bon, en même temps, ça suit très exactement au fond la chronologie de Bibliomule. C'est une réflexion sur l'identité andalouse. Vous l'avez lu, Wilfried Lupano?
Oui, je l'ai lu autant que faire se peut, puisque je l'ai eu assez récemment. Mais j'y ai retrouvé énormément d'idées que j'ai pressenties dans mes recherches personnelles et que j'ai essayé d'incarner dans cette histoire de la Bibliomule. Et ça m'a été vraiment un grand bonheur de redécouvrir ça sous la plume d'Emmanuel, en particulier donc tout le sort qu'elle fait à cette idée de la tolérance et de ce transport finalement assez anachronique d'une idée moderne sur une époque qui n'en est pas du tout là et qui n'aborde pas ces sujets-là de cette façon-là et qui parle plutôt de coexistence et de l'absence de considération ethnique ou de pureté du sang ou ce genre de choses qu'on a essayé dans la Bibliomule de Cordoue d'incarner parce que ça nous semblait être l'essence d'Al-Andalus précisément, cette coexistence pas du tout idéalisée, pas du tout idyllique, très pragmatique, basée sur des taxations, sur des impôts, sur des prérogatives des uns et des autres. Et ça m'a vraiment intéressé de retrouver tout ce passage-là, oui.
En tout cas, il n'y a rien d'ethnique dans cette identité savante. Et Emmanuel Tixier-Dumesnil, vous écrivez à la fin de votre livre, je vous cite, « Sa seule patrie est le savoir et elle est bâtie sur des fondations de papier » de celles qui justement demeurent parce que leur universalité permet à qui choisit de s'en réclamer d'en être l'héritier légitime.
Oui, c'est ça qui est beau avec Al-Andalus, c'est que sa disparition, en quelque sorte, a suscité un sentiment très rare, celui de la nostalgie. Mmh. C'est pas parce qu'on a disparu qu'on a rendu nostalgique de son existence. Par exemple, personne n'a la nostalgie des dinosaures, mais pourtant, Al-Andalus suscite ce sentiment très rare, certainement parce que elle crée par l'entrelac de ces motifs entre les palais grenadins, la beauté des soirées cordouades, les orangers en fleurs, et précisément cette tolérance andalouse, l'idée d'un paradis perdu. Et ce qui est tout à fait étonnant dans les sources andalouses, c'est que dès le Xe, peut-être même avant, même si on a très peu de sources antérieures, il y a cette idée de la fragilité d'Al-Andalus, mais aussi de cette idée d'un paradis perdu qui serait l'Orient, et que la transposition des Omeyyades, c'est aussi une forme d'exil, d'égir, et qu'on a déjà la nostalgie de l'Orient. C'est-à-dire qu'Al-Andalus a cultivé tout au long de cette histoire l'idée de la nostalgie.
D'où également une réflexion sur l'héritage. Votre livre commence par une déconstruction du mythe historiographique de la tolérance andalouse, ce qui nous amène effectivement à nous interroger, de la bibliothèque au musée, sur ce que l'on doit lire du Moyen-Âge et ce qui nous relie à lui. Comment faire un musée? Comment y promener des enfants?
L'art et la vie au Moyen-Âge au Musée national de Cluny. Le programme est ambitieux pour des enfants de 7-8 ans.
Alors on va faire un jeu de piste avec Claire. On va faire deux groupes. Un groupe avec les plus grands, un groupe avec les moins grands.
Découvrir la vie des seigneurs, retrouver les têtes des rois de Juda tombées du portail de Notre-Dame ou identifier les sculptures des chapiteaux. Ici, c'est un travail d'investigation.
À travers les énigmes, ils vont découvrir un petit peu la vie des épouses des seigneurs au Moyen-Âge. En regardant les tapisseries, ils vont découvrir que les épouses faisaient de la broderie, qu'elles filaient la laine, que les gens au Moyen-Âge ne savaient pas lire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de décorations, de scénettes.
Mon épouse, c'est celle-là, c'est la première.
Bien sûr, impossible d'oublier les chevaliers, leurs armures et leurs grandes épées. Les garçons sont fascinés, les filles plus réalistes sur la vie au Moyen-Âge.
Pourquoi c'était pas la belle vie?
Enfin, parce que les seigneurs, oui, et les dames aussi, mais pour les paysans, pas trop.
Isabelle Bardiès-Fronty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice générale au musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge, on l'a dit, qui vient d'ouvrir à nouveau ses portes au public après 20 mois de fermeture pour travaux et rénovation. C'est un musée vénérable, logé dans l'hôtel des abbés de Cluny au quartier latin à Paris, fondé en 1843, à partir notamment des collections d'Alexandre du Sommerard. Or, ces collections étaient d'abord des œuvres d'art, des antiquités nationales aujourd'hui, et c'est en cela que le musée a pris un coup de jeune. Il ambitionne de donner à voir et à comprendre le monde médiéval, tout le monde.
Oui, un musée se fait à partir de ses collections. Mais c'est vrai que leur mariage, la façon dont on les dispose, dont on les scénarise, peut nous amener à présenter sous un angle novateur, c'est du moins l'ambition que nous avons, que nous portons tous ensemble, l'équipe du musée, ce monde médiéval. De sorte que, par exemple, en lieu et place d'une séparation par technique artistique qui initiait un regard peut-être un peu plus de spécialiste, nous avons fait ce choix d'art un peu total, en montrant tous les aspects artistiques d'une période donnée au cours du Moyen-Âge, de sorte que les gens comprennent que de l'œuvre la plus simple à la plus ambitieuse, esthétiquement parlant, ou la plus régalienne, eh bien, il y a des correspondances esthétiques, mais aussi des correspondances intellectuelles. Et de moments historiques.
Et par exemple, ce XIe siècle dont on a parlé aujourd'hui, il est exposé dans une salle, après le Frigidarium, où Orient et Occident sont en vis-à-vis. Je parlais de l'étoffe des songes tout à l'heure, et l'art islamique est notamment présent par des étoffes précieuses.
Nous y avons vraiment veillé. Les étoffes précieuses, effectivement, qui sont un des points très saillants de la collection pour les collections publiques islamiques en France, mais que, vous le savez sans doute, nous ne pouvons pas montrer en permanence pour des raisons de conservation. Eh bien là, notre ambition a été de montrer, par une jolie correspondance avec votre émission d'aujourd'hui, effectivement, il se trouve que j'ai porté mon choix sur trois pièces de textile qui sont absolument insignes pour l'histoire de l'art islamique en Espagne. Et voilà, aujourd'hui, je peux vous inviter pendant 4 mois à pouvoir les admirer. Ensuite, il y aura d'autres tissus. Voilà, ça tourne.
Oui, et d'une manière générale, même s'il n'y a pas des contraintes de conservation, exposer, c'est choisir. Il y a ce qu'on montre, il y a ce qu'on ne peut pas montrer. Isabelle Bardiès-Fronti, on aimerait aussi vous entendre plus globalement sur les choix muséographiques. Parce que le Moyen-Âge, c'est aussi la mémoire qu'on en a au moment où on rentre au musée. Impossible de faire un musée du Moyen-Âge sans épée de chevalier. Mais quelles sont les principales idées reçues que vous voulez pourfendre avec ces épées qu'attendent les enfants? On l'a entendu.
On les a entendus, les enfants. La première chose qu'il faudrait peut-être essayer de pourfendre, sans du tout nier l'évidente importance des commandes qui relèvent de la religion dans le monde médiéval, c'est l'équilibre réel dans nos collections entre les œuvres qui relèvent du cercle religieux et des œuvres qui relèvent du cercle profane. Ensuite, vous l'avez souligné, Patrick, nous n'avons pas que des œuvres de l'Europe médiévale, nous avons aussi des œuvres extra-européennes, qu'elles soient byzantines ou qu'elles soient liées au monde islamique, proche-oriental ou espagnol. On en a parlé. Donc ça, c'est une chose qui nous semble très importante pour porter le discours. Et puis, ces idées reçues, elles sont peut-être celles aussi véhiculées par la civilisation d'après, c'est-à-dire la Renaissance. C'est toujours une histoire de construction. Et c'est vrai que nous avons pris cette expression de Renaissance pour regarder le monde médiéval, non sans penser à cette idée de renaître du point de vue du regard qu'on porte. L'idée est de, évidemment, montrer qu'il n'y a pas d'âge sombre dans ce premier Moyen-Âge et que la période alto-médiévale est l'entrée de plein pied dans une forme de transmission entre Antiquité et Moyen-Âge. Et puis, bien sûr, du XIe siècle au XVe siècle, ce sont les évolutions esthétiques, y compris dans des réceptions antiques qui précèdent le fameux Quattrocento italien.
Oui, et puis on arrive, évidemment, à la dame à la licorne. C'est d'ailleurs pas tout à fait le clou du spectacle. Nous invitons les visiteurs à le découvrir. Emmanuel Tixier-Duménil, qu'est-ce qui vous a frappé dans la découverte de ce nouveau musée ou de ce musée renouvelé ?
La beauté des œuvres exposées, bien sûr, le télescopage entre les époques, parce que ce site antique, grandiose, absolument magnifique, et la beauté et la préciosité de ces œuvres médiévales, c'est un plaisir esthétique absolument essentiel et que nous invitons vraiment tous les auditeurs à aller visiter, parce que c'est un musée absolument magnifique. Mais grâce à la muséographie quand même très adaptée, on comprend ce qu'on voit.
Isabelle Bardiès-Fronti.
Mais je vous remercie de ce récit de visite. Oui, Adrien Garder, le scénographe, a pris le parti de bien mettre en valeur les œuvres, mais il a aussi pris un parti très important. Vous parliez du cadre grandiose du monument du Frigidarium, il y a aussi ce cadre précieux et onirique qu'est l'hôtel des abbés de Cluny, et Adrien Garder a veillé à ouvrir les fenêtres et à rendre perceptible dans cet écrin une correspondance entre le contenant et le contenu.
Ouvrir les fenêtres, finalement, c'est considérer qu'on rentre toujours dans le Moyen-Âge, par l'époque contemporaine. C'est d'une certaine manière, on l'a compris, ce qui était en jeu dans la bibliomule de Cordoue, où Wilfried Lupano nous a expliqué que c'était au fond le souvenir des autodafés du XXe siècle qui l'y amenait. Et d'une certaine manière, Emmanuel Tixier-Duménil, ce qui vous amène aussi à Al-Andalus, c'est ce que vous décrivez dans la première partie de votre livre, c'est ce mythe contemporain de la tolérance que vous déconstruisez au départ, mais que vous déconstruisez de manière, je dirais, pas agressive, justement pour montrer ce dont on a besoin dans cette idée d'une péninsule savante.
Oui, il faut s'éloigner de la polémique et il faut faire de l'histoire. Et le terme de la tolérance est un terme de la modernité qui a été inventé au moment des guerres de religion. Donc l'appliquer à une situation médiévale, c'est poser une question anachronique. C'est comme, je le disais dans l'introduction, poser la question de la souffrance animale dans la constitution de l'Empire mongol. C'est stupide. Bon, parler de la tolérance andalouse, c'est stupide. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et en déduire, comme certains polémistes, qu'il n'y avait aucune coexistence entre les trois religions. Si. Et la grande caractéristique du monde islamique, qu'on oublie trop souvent, c'est que jusqu'au XIe siècle, il y a une majorité de chrétiens qui vivent au sein du monde islamique. Donc oui, il y a coexistence, il y a organisation pragmatique, et c'est extrêmement bien vu dans la Bibliomule de Cordoue, une organisation pragmatique de cette société multiculturelle et pluriconfessionnelle.
Et Isabelle Bardiès-Fronty, quand on pense, quand on imagine un parcours dans les collections du Moyen-Âge, on doit tenir compte aussi de toutes ces connotations. Le Moyen-Âge, ça sert à faire la guerre, ça sert à se détester, ça sert aussi à rêver qu'on a été un moment tolérant. Il faut que tout soit en vis-à-vis, soit en regard dans le musée.
Je dis toujours qu'un musée n'est pas un livre. On peut le déplorer, mais c'est quand même un art du compromis. Il faut faire avec les collections. Donc c'est une forme de récit, de narration qui se construit à partir d'un existant qui est notre collection.
Et ben voilà, on ne peut faire musée que de nos contradictions. Merci Wilfried Lupano, merci Emmanuel Tixier du Ménil, merci Isabelle Bardiès-Fronty. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Gilles Gaillard. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons de Céline, à l'occasion de la parution du livre inédit « Guerre » avec l'historienne Anne Simonin. Bon dimanche sur France Inter.